Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Désamorcer les critiques et la colère, dur travail pour le gouvernement sur tous les fronts jusqu'à demain pour convaincre syndicats et majorité socialiste du bien fondé de la réforme du travail et des inflexions consenties.
Le travail est-il le lieu propice aux discriminations contre les femmes à l'occasion de cette journée du 8 mars? L'Organisation internationale du travail publie ses conclusions. Nous ferons le point avec Marie Viennot.
À l'étranger, l'Europe toujours incapable de parler d'une seule voix pour résoudre la crise migratoire. Aujourd'hui, Grèce et Turquie se retrouvent, deux voisins, mauvais terme, aujourd'hui contraint de s'entendre pour stopper les flux clandestins.
La Tunisie, victime de plusieurs assauts dramatiquement meurtriers hier à sa frontière avec la Libye, nous irons à Tunis.
Et nous verrons pourquoi l'Italie, ancienne puissance coloniale, freine pour prendre la tête d'une coalition militaire contre Daesh en Libye. Convaincre à tout prix. Ce soir, Manuel Valls doit rencontrer les députés socialistes réunis en séminaire spécial pour défendre le projet de réforme du Code du travail. Avant cela, il aura poursuivi les consultations de tous les partenaires sociaux à Matignon. Et hier soir, c'est Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui a été envoyée au front à Solferino. Elle avait pour mission de rallier le bureau national du Parti socialiste. La soirée promettait d'être longue et peut-être même pénible pour la ministre du Travail. Le compte-rendu est signé Frédéric Saïs.
Ces derniers temps, la réunion du bureau national du PS faisait rarement le plein, car tous les débats y semblent joués d'avance. Mais hier soir, personne ne manquait à l'appel ou presque. À huis clos, les ténors du parti ont échangé pendant près de 4 heures avec Myriam El Khomri. Intimidée, parfois tendue, la ministre a commencé par une longue introduction, un texte lu sur les avancées sociales, selon elle, contenues dans cette loi, comme le compte personnel d'activité. Mais très vite, dans la salle, les intervenants lui font comprendre qu'elle n'est pas en terrain conquis, loin de là. Les frondeurs, l'aile gauche, demandent le retrait pur et simple du texte. La ministre répond que cette loi participe du progrès social comme d'autres grands textes socialistes avant elle. Elle cite les lois Auroux. Martine Aubry lui répond alors immédiatement « Les lois Auroux, j'ai contribué à les écrire, cela n'a rien à voir ». La maire de Lille, agacée qu'on lui reproche de critiquer sans s'impliquer, est venue avec des propositions. Elle ne le dira pas devant la presse en sortant, mais toujours à huis clos, elle propose que le barème plafond d'indemnité de licence ne soit qu'indicatif et que le juge au prud'homme garde son pouvoir d'appréciation. Myriam El Khomri laisse entrevoir une ouverture sur ce point, mais reste beaucoup plus rigide sur l'autre sujet polémique, la définition du licenciement économique, trop souple dans l'avant-projet de loi selon les syndicats. Pas d'annonce tonitruante, mais une marque de dialogue et d'écoute. Dialogue et écoute presque surjouée, comme s'il fallait compenser leur absence criante dans la conception du projet de loi.
Et sur le front syndical, les dirigeants des centrales reçus hier à Matignon ont reconnu que le Premier ministre était prêt à modifier certaines choses, sans donner de détails. Le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, soutien incontournable pour faire passer la réforme, a insisté de son côté pour faire retirer le plafonnement des indemnités prud'homales. Une condition sine qua non, a martelé le patron de la Confédération. Le gouvernement a prévu de rendre publiques les inflexions au texte lundi prochain. En tout cas, l'appel à la mobilisation risque donc d'être maintenu pour demain, journée de manifestation. Mais aussi de grèves dans les transports, notamment à la SNCF et à la RATP. Un préavis a été déposé, décorrélé du débat sur le projet de loi travail. Il porte sur les effectifs, les salaires et la réforme ferroviaire. Les perturbations commenceront dès ce soir. Et puis en ce 8 mars, journée des droits des femmes, nous nous arrêtons justement ce matin sur la place des femmes au travail. L'Organisation internationale du travail a publié hier un long rapport sur le sujet. 178 pays ont été étudiés. Conclusion, les inégalités perdurent alors même que les femmes sont mieux éduquées. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors les femmes sont toujours surreprésentées dans les emplois mal payés, non déclarés et à temps partiel.
Oui, quel que soit le niveau de développement du pays, c'est la même chose. Les femmes représentent 40% de l'emploi total, mais 57% des postes à temps partiel. En Europe du Nord, c'est un record. Une femme sur trois est à temps partiel. Niveau mondial, elles gagnent en moyenne un quart de moins que les hommes et sont surreprésentées dans les emplois informels, non rémunérés légalement et donc non couverts par les systèmes de protection sociale quand ils existent. Résultat, à l'échelle mondiale, la proportion de femmes qui ont l'âge de la retraite et touchent une pension est en moyenne de 10 points inférieure à celle des hommes. Alors il y a des différences entre les pays à haut revenu, dits avancés, et les autres. Sur 173 économies étudiées, 155 par exemple empêchent toujours des femmes d'accéder à l'autonomie, soit parce qu'elles n'ont pas le droit de créer une entreprise ou d'ouvrir un compte en banque. Sur le type de travail effectué, les femmes occupent en majorité des emplois dans les services. service. C'est une évolution récente. Il y a 20 ans, elles étaient encore majoritairement dans l'agriculture. Mais c'est encore le cas d'ailleurs en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, Afghanistan, Inde, Pakistan. Partout, le fait d'être mère pèse sur les salaires. En Chine et au Mexique, une femme avec enfant peut gagner un tiers de moins qu'une femme sans enfant. Enfin, le travail domestique non rémunéré leur prend en moyenne 4h30 par jour, 2h15 pour les hommes dans les pays développés et 1h20 dans les pays en développement.
Alors face à cela, la plupart des pays ont mis en place des politiques de quotas, de discrimination positive. C'est une tendance mondiale, Marie.
Oui, tous les pays ne le font pas, mais de plus en plus s'y mettent. L'Organisation internationale des employeurs a établi des partenariats avec la Fédération internationale des femmes entrepreneurs pour encourager l'égalité. Cela donne, par exemple, en Malaisie, des lois qui oblige à recruter des femmes dans les instances de décision. Même chose au Nigeria, dans le secteur bancaire, et en France, où le nombre de femmes dans les conseils d'administration progresse depuis l'instauration d'une loi. Côté politique, 120 pays appliquent des quotas pour favoriser l'entrée des femmes dans les sièges du pouvoir. C'est un succès en Équateur, où 40% des députés sont des femmes, 42% au Sénégal, 35% en Ouganda. Je vous rappelle qu'en France, on est toujours à 26%.
Un rappel utile. Merci beaucoup, Marie Viennot.
8h06, la suite du journal sur France Culture, Amélie Perrier. L'Europe est aujourd'hui face à ses déchirures.
Et oui, les 28 réunis à Bruxelles avec la Turquie ne sont pas parvenus à sceller un accord hier pour stopper le flux des migrants. Un énième et nouveau sommet convoqué la semaine prochaine, jeudi et vendredi. D'ici là, il va falloir affiner les détails, comme disent les diplomates. Car hier, l'Europe et la Turquie semblent quand même avoir dégagé une piste pour mettre fin au trafic des passeurs. Tous les migrants arrivant illégalement en Grèce seront renvoyés en Turquie. En échange, Ankara enverra en Europe des demandeurs d'asile enregistrés par ses services. Aujourd'hui à Izmir, une nouvelle réunion se tient entre représentants grecs et turcs, deux pays voisins aujourd'hui, contraints de se parler, voire de s'entendre, malgré un passé tumultueux, Nadine Epstein.
La pomme de discorde entre la Turquie et la Grèce remonte à 1974, quand Ankara envoie des troupes à Chypre en réaction au coup d'État grec pour attacher l'île à Athènes. Depuis 42 ans, Chypre est coupée en deux. Les Chypriotes grecs habitent au sud de l'île et les Chypriotes turcs ont créé la République turque de Chypre Nord, une autoproclamation en 1983 uniquement reconnue par la Turquie. En 2014, les Nations Unies tentent de faire aboutir des négociations de paix, mais sans succès de normalisation. Malgré ces relations tendues, quand il y a urgence, les voisins se rapprochent. Exemple, après la décision de la Grèce de ne pas rembourser les 1,5 milliard d'euros au FMI, la Turquie a proposé d'aider la Grèce à se sortir de la crise économique en coopérant dans trois domaines, le tourisme, l'énergie et le commerce. Aujourd'hui, face à la crise des migrants, les deux pays pourraient réactiver un accord bilatéral signé en 2002 qui permet à la Grèce de renvoyer les migrants venus des pays du Maghreb vers la Turquie. Il faut actualiser cet accord avec la Turquie. S'il n'y a pas de coopération avec la Turquie, on n'aura pas de résultats substantiels sur la réduction du flux migratoire, a estimé Athènes.
La Tunisie meurtrie une nouvelle fois par le péril djihadiste. Des terroristes ont pris d'assaut hier la ville de Ben Gherdan, à la frontière avec la Libye. Des attaques simultanées sans précédent contre une caserne de l'armée, des postes de police et de gendarmerie. On recense ce matin au moins 54 morts. Les autorités accusent le groupe État islamique de plus en plus puissant dans la Libye voisine. C'est une correspondance de Justine Fontaine.
Les forces de sécurité cherchaient encore hier soir à vérifier qu'aucun combattant n'était plus présent dans la ville de Ben Gherdan et à ses abords immédiats. C'est là, à une trentaine de kilomètres de la frontière libyenne, que se sont déroulés les affrontements entre combattants djihadistes et forces de l'ordre. Les combats ont duré une grande partie de la journée. Des attaques coordonnées ont d'abord visé trois casernes avant l'aube lundi. Des témoignages recueillis par l'agence France-Presse indiquent aussi que les djihadistes ont procédé à des contrôles d'identité dans la ville hier matin. Et puis un responsable de la brigade antiterroriste a été tué chez lui, selon sa famille. Le ministère de l'Intérieur refusait hier soir de confirmer cette information. Cette attaque en pleine ville, menée par plus d'une trentaine de djihadistes, est en tout cas d'une ampleur inédite en Tunisie. Et ce scénario était redouté depuis plusieurs mois par le pays, déjà touché par trois attentats l'an dernier. Le président Béji Caïd Essebsi a reconnu la gravité de l'attaque hier. Il a déclaré que les Tunisiens sont, je le cite, « en guerre contre cette barbarie et ces rats que nous allons exterminer ».
Alors le problème de la Tunisie, c'est donc la prolifération de Daesh en Libye, un pays sans État, sans autorité claire depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. La communauté internationale se retranche derrière un prérequis, la création d'un gouvernement d'union nationale. C'est cette entité qui devra demander formellement l'aide internationale pour faire face à l'État islamique. De la Libye, il en sera question aujourd'hui lors du sommet franco-italien à Venise, l'Italie, ancienne puissance coloniale. Car selon la presse transalpine, le plan d'intervention est prêt, mais le Premier ministre Matteo Renzi est loin d'être un va-t-en-guerre. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Tant que je serai président du Conseil, l'Italie n'ira pas en Libye pour une invasion avec quelques milliers d'hommes, déclarait dimanche Matteo Renzi à la télévision italienne. Une mise au point qui intervient après plusieurs publications dans la presse. Le quotidien La Repubblica assure que l'Italie est prête, qu'une opération de masse se prépare et que la force d'intervention sera certes européenne, mais aux deux tiers assurée par des militaires italiens. Ou encore Il Corriere della Sera, l'autre grand quotidien de la péninsule, dans lequel l'ambassadeur américain à Rome déclare que l'Italie pourrait envoyer jusqu'à 5000 soldats en Libye pour y combattre le groupe État islamique. Matteo Renzi a rappelé aussi l'exigence de la communauté internationale, la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye avant d'envisager la moindre intervention. L'Italie serait le leader naturel d'une coalition, semble penser ses alliés. Ancienne puissance coloniale en Libye, elle détient sur place des intérêts économiques significatifs, avec une forte présence de l'ENI, le géant italien de l'énergie. C'est d'ailleurs dans un complexe immobilier appartenant à l'ENI que 4 ressortissants italiens ont été enlevés en juillet dernier. 2 de ces otages ont été tués. 2 autres sont rentrés sains et saufs au pays après des mois de détention particulièrement éprouvants.
Des djihadistes qualifiés de très courageux. Jean-Marc Rouillan risque aujourd'hui de perdre sa liberté conditionnelle pour avoir déclaré dans une interview que les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris se sont battus courageusement. Rouillan, ancienne figure d'Action Directe, l'organisation armée d'extrême gauche qui a commis assassinats et attentats dans les années 80, précise: on peut dire qu'on est absolument contre leurs idées réactionnaires, mais pas que ce sont des gamins qui sont lâches. Une enquête a été ouverte dans la foulée, Emmanuel Leclerc.
C'est la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui a été chargée de cette enquête préliminaire, diligentée d'office par le parquet de Paris pour apologie du terrorisme. Jean-Marc Rouillan, qui était jusque-là en liberté conditionnelle, pourrait une nouvelle fois donc retourner en prison, ce qui lui était arrivé en 2007 après une interview accordée à l'Express. Remis en semi-liberté il y a 5 ans, puis en liberté conditionnelle, Jean-Marc Rouillan a de nouveau justifié des actes terroristes, pas les siens cette fois, mais ceux de jeunes djihadistes courageux qui se sont battus, dit-il, courageusement, même s'ils ne partagent en aucun cas leur cause. Lors de son entretien, Jean-Marc Rouillan a froidement expliqué que les victimes de ce genre de massacre étaient le résultat d'un acte de guerre contre un État français qui n'aurait pas changé depuis la guerre d'Algérie, un État assassin, colonialiste. Daesh agit comme l'Iran en son temps, on la frappe, l'organisation terroriste répond avec ses armes, la guérilla urbaine.
Emmanuel Leclerc, on termine cette édition en Pologne où le tribunal constitutionnel examine aujourd'hui la loi sur sa propre réforme, loi controversée. L'opposition dénonce une manière pour le parti conservateur, le PiS, à la tête du pays, de museler le pouvoir législatif. Un sit-in est prévu devant l'institution ce matin. Écoutez Dorota Pudzianowska, juriste à la Fondation Helsinki.
Je pense que c'est pour vraiment montrer qu'ils vont changer le pays. Et c'est vrai que la majorité qu'ils ont au Parlement maintenant, c'est un précédent dans la Pologne indépendante qui permet de procéder avec de différentes réformes sans chercher le compromis avec d'autres partis. Et je pense que c'est vraiment pour montrer que maintenant, on va changer tout le système, même peut-être on va changer la Constitution, parce qu'ils pensent aussi à changer la Constitution. Je pense que même les gens qui ont voté pour PiS ont espéré qu'ils vont changer le pays, mais selon le modèle de démocratie, qu'ils ne vont pas essayer à détruire les institutions démocratiques ou les institutions qui sont là pour que la démocratie procède correctement, comme le tribunal constitutionnel. Alors, détruire le tribunal constitutionnel, paralyser le tribunal constitutionnel, ça veut dire qu'on n'a pas l'état de droit, qu'on n'a pas une institution qui a été créée pour vérifier que les actes sont issus démocratiquement, oui.
Dorota Pudzianowska, juriste à la Fondation Helsinki, elle répondait à Catherine Pétillon. Et puis le temps de ce mardi, le calme revient, accompagné du froid, température négative quasiment partout à l'intérieur des terres ce matin. De la neige sur les massifs des Vosges aux Alpes. Cet après-midi, on attend 4 degrés à Besançon, 6 degrés à Lyon, 8 à Lille et à Paris, 10 degrés à Toulouse, 11 à Lorient et 12 degrés quand même pour Nîmes.